Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle au Togo. Agbeyome Kodjo, candidat de l'opposition, arrivé à la seconde place du scrutin présidentiel derrière le président sortant Faure Gnassingbé, selon les chiffres officiels, a encore appelé le peuple aujourd'hui à défendre la vérité des urnes. Mais les rues de Lomé, la capitale, sont restées très calmes ce lundi matin. Et d'après l'AFP, tout le monde vaquait à ses occupations comme d'accoutumé. La vie a également repris son cours après ce week-end électoral à Sokodé, deuxième ville du pays d'où étaient parties les manifestations anti-pouvoir de 2017. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Irénée Hermann Umbo.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré vainqueur de la présidentielle du 22 février le candidat de l'Union pour la République, le président sortant Faure Gnassingbé, devant l'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo qui, lui, s'est autoproclamé président élu, une situation qui inquiète déjà certains observateurs de la vie politique au Togo. Narcisse Prince Agbodjo est journaliste.
Nous sommes encore plus dans une période sensible. C'est une période beaucoup plus de revendications. C'est une période aussi où les politiques stimule les populations à de violence. Notre souhait, c'est que tout se passe bien.
Jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, tout le processus électoral s'est déroulé sans incident majeur, va faire remarquer Narcisse Prince Agbodjo avant d'insister sur ce qui préoccupe le plus l'ensemble des citoyens togolais.
Les Togolais sont plus inquiets par rapport à leur panier de la ménagère. Tout notre souhait, c'est que chacun puisse vaquer à ses occupations après les élections et vivement que les politiques puissent comprendre que le Togo puisse avancer et que tous on se rappelle que nous sommes tous Togolais et que l'important, c'est de véritablement travailler en communion pour le développement de notre cher pays, le Togo.
Occasion pour le commissaire aux affaires politiques à la Commission paix et sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'insister sur la notion de paix que doivent s'approprier les différents acteurs politiques du Togo. Général Francis Béonza.
Vous savez, l'évolution sociopolitique de nos différents pays est remarquable sur le plan de la nécessité d'avoir la paix autour et avec tous les acteurs politiques. Pour le Togo, de façon particulière, il faut vous dire que nous sommes partis de très loin. Vous vous rappelez les événements de 2017, les événements de 2018, jusqu'à l'élection législative de 2018. Ensuite, après l'élection législative, il y a eu l'élection locale, les élections locales. Et à ces élections locales, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons constaté au niveau de la région que tous les acteurs politiques ont participé à cette élection locale. C'est signe que la tolérance prend le dessus sur des clivages politiques peut-être utiles, parfois inutiles, mais ce qui doit compter pour le peuple togolais, c'est de se retrouver pour aller à un développement qui permette à toute la population de se retrouver comme citoyen togolais.
Irénée Hermann Umbo, Lomé, VOA Afrique.
Pour sa part, le président sortant Faure Gnassingbé n'a fait aucun discours, mais il a fêté sa victoire, annoncée au milieu de la nuit, dans un village présidentiel construit non loin de la présidence de Lomé pour la campagne électorale. Lundi matin, sur son compte officiel Twitter, les internautes pouvaient lire « Merci pour la confiance renouvelée, oui, allons-y ». Élection en Guinée-Bissau maintenant, le candidat à la présidentielle donné vainqueur par la Commission électorale nationale, Umaro Sissoko Embalo, a annoncé dimanche qu'il sera investi à la tête de l'État le jeudi 27 février. La victoire de M. Embalo, issu de l'opposition, est contestée par son rival Domingos Simões Pereira, le candidat du PAIGC, le parti historique dominant dans le pays. Le perdant a saisi la Cour suprême, mais plusieurs arrêts de la haute juridiction n'ont pas permis de trancher définitivement le contentieux électoral. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a déjà félicité M. Embalo pour sa victoire, a haussé le ton samedi en avertissant que des sanctions pourront être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Mali, au moins 4 soldats ont été tués et 8 blessés dimanche lors de l'attaque d'un camp de l'armée dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est sur Twitter que l'armée malienne a confirmé l'attaque par de présumés djihadistes du poste de Bambara Maoudé à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou. Les blessés ont été héliportés sur Sévaré. Avec l'intervention de l'aviation malienne appuyée par Barkhane et la MINUSMA, le poste est sous contrôle, a pour sa part déclaré toujours sur Twitter le ministre de la Communication Yaya Sangaré. Selon un élu local, les terroristes sont partis avec des véhicules et du matériel militaire, mais aussi avec des corps de leurs camarades tués. Le bilan du côté des assaillants n'est pas connu, selon le colonel Boubacar Sanogo, commandant de la région militaire de Tombouctou, où un bataillon de l'armée malienne reconstitué a pris ses quartiers il y a quelques jours. La force française Barkhane vient d'annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d'ici à fin février dans l'espoir d'inverser le rapport de force sur le terrain alors que les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques au Sahel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée nationale congolaise a affirmé dimanche avoir tué 6 membres des ADF, les rebelles des forces démocratiques alliées, dans 2 offensives ciblant ces milices accusées d'être responsables du massacre de près de 400 civils depuis novembre 2019 dans la région de Beni, province du Nord Kivu. Jeudi dernier, le Conseil des ministres a accusé les Mai Mai de s'être constitués en supplétifs des ADF dans la région de Beni. Mai Mai est un terme générique qui désigne des miliciens constitués sur une base communautaire et dont les actions vont de la défense des intérêts communautaires à la grande criminalité. En Éthiopie, un attentat à la bombe pendant un rassemblement de soutien au premier ministre Abiy Ahmed a fait 29 blessés dimanche. Le meeting était organisé dans la ville d'Ambo, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale Addis Abeba. Monsieur Abiy n'assistait pas à ce rassemblement. Actualité hors d'Afrique, maintenant la lutte contre les djihadistes dans la péninsule arabique. Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique a confirmé hier dimanche le décès de son chef 2 semaines après l'annonce par Washington de sa mort dans une frappe de drone américain au Yémen. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La mort de Qassem al-Rimi, chef de l'AGPA, a été confirmée dans un discours d'un de ses responsables religieux, selon un communiqué de site, le Centre américain de surveillance des sites islamistes. Son adjoint et porte-parole du groupe, Khaled Ben Omar Batarfi, lui succède. Le président américain Donald Trump avait annoncé le 6 février que les États-Unis avaient éliminé Qassem al-Rimi quelques jours après la revendication par le groupe djihadiste d'une fusillade perpétrée début décembre dans la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride. 3 marins américains avaient été tués par un sous-lieutenant de l'armée de l'air saoudienne dans cette attaque. Washington considère AGPA, basée au Yémen, comme la branche la plus dangereuse du réseau djihadiste. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017, les États-Unis ont intensifié les attaques contre le groupe.
Actualité américaine toujours, le président des États-Unis Donald Trump a débuté ce lundi en Inde une visite d'État de 2 jours où le géant d'Asie du Sud lui a réservé un accueil haut en couleur avec un meeting géant aux côtés du premier ministre indien Narendra Modi. Les détails avec Anna Dodson.
Le président américain a été accueilli sur son parcours par des milliers d'Indiens, loin toutefois des millions et des millions de personnes dont il avait parlé avant sa venue en évoquant le plus gros événement que l'Inde ait jamais connu. La première journée de ce déplacement est l'occasion d'un pas de deux soigneusement chorégraphié entre le président américain et le premier ministre indien. Les deux hommes mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de friction commerciale causée par leur protectionnisme respectif. Responsables indiens et américains se réservent les discussions sur le fond des dossiers pour la série d'entretiens bilatéraux mardi à New Delhi. L'Inde est un allié stratégique en Asie pour les États-Unis qui voit en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. La venue de Donald Trump en Inde ne devrait pas être l'occasion d'annonces majeures. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer commercial depuis l'année dernière, mais faute de terrain d'entente à ce jour, aucun grand accord commercial ne devrait être conclu lors de cette visite.
Épidémie de coronavirus pour terminer, la Corée du Sud a annoncé ce lundi 161 nouvelles contaminations au coronavirus, ce qui porte le total national à 763 et fait de ce pays le plus important foyer de l'épidémie de pneumonie virale en dehors de la Chine, où la maladie est apparue en décembre dernier. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.